Bien, chers collègues, chers étudiants, chers doctorantes et doctorants, hémisphère droit, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, et moi en particulier, pour ouvrir ce colloque sur le nombre et le droit. Très heureux à bien des égards, très heureux d'abord parce que on va de suite vous avouer notre fierté de voir que la jeune recherche incarnée par les doctorants et les jeunes docteurs réunis au sein de l'hémisphère droit soit à même d'organiser une si belle manifestation. Qui est d'ailleurs voilà, l'une des manifestations qu'ils auront organisées cette année, mais voilà, celle qui certainement va être la plus marquante. Ça fait partie de leur cursus d'apprentissage du métier d'enseignant-chercheur, finalement, que d'être à même d'organiser ce type d'événement. Mais il y a le faire et le faire bien. Et voilà, tous les éléments sont réunis pour que le faire bien, ce soit effectivement le cas aujourd'hui. Donc on est très fiers d'eux, aussi pour l'idée. J'avoue que quand j'ai vu ou été mise au courant du thème, je me suis dit, tiens, voilà une très belle idée que de faire un colloque sur le nombre et le droit. Et j'ai encore plus été ravie et presque même bluffée quand j'ai commencé à lire le programme, que je trouve extrêmement bien construit, mais d'autres le diront à ma suite bien mieux. Voilà, je trouve que la journée est vraiment très prometteuse au regard de la manière dont elle se décline. Donc merci et bravo, parce que je sais que ce colloque, vous l'avez porté de A à Z quant à l'organisation aussi matérielle, bon, évidemment avec l'aide de Claire Gommet en particulier, et Véronique Picard certainement aussi. Mais c'est pas rien d'organiser un événement de ce type. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de petites choses à prévoir, c'est beaucoup de contacts à prendre, voilà, mille petites choses à envisager. Donc, ne serait-ce que le concrétiser, c'est déjà une belle victoire. Et après, voilà, la qualité des interventions qui vont suivre sera la deuxième victoire et la réussite, la victoire finale. Donc merci pour tout ça. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui sont là pour vous, voilà, pour vous témoigner leur soutien eux aussi et le plaisir qu'ils vont avoir à vous écouter. Voilà, on sera là tout au long de cette journée. Sans tarder, je vais donner la parole aux deux... Ah. Tout d'abord à vous, et ensuite aux deux enseignants qui vont faire les propos introductifs. Merci beaucoup.
Madame le doyen, c'est au nom de l'association Hémisphère Droit que nous vous remercions pour ces propos d'ouverture. Votre présence témoigne de la place accordée aux jeunes chercheurs au sein de l'Université de Tours, place qui est valorisée et soutenue. Aussi, nous remercions l'IRGI, laboratoire co-dirigé par M. Fourmand et M. Monjal, pour la confiance et le soutien plein et entier dans l'organisation de ce colloque. Nous remercions Mme Barguin, Mme Trollet, M. Mosel, M. Prier et M. Roland qui ont accepté d'être membres du comité scientifique et qui ont travaillé pour la sélection des communications retenues aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes grâce auxquelles ce colloque a été rendu possible. Claire Gommet, Xavier Houillet et Véronique Picard, merci pour le temps et l'aide précieuse que vous nous avez accordée. Merci aussi à Jean-Philippe Corbellini, grâce à qui la captation audiovisuelle est possible aujourd'hui. Nous sommes également très reconnaissants envers les présidentes et présidents des axes, ainsi que tous les intervenants d'aujourd'hui, dont certains sont venus de loin pour nous présenter leurs travaux et leurs connaissances. Votre présence contribue grandement à la portée et au succès de cette manifestation. Enfin, merci à vous d'être venus, à ce colloque, qui sera, j'en suis certaine, très enrichissante pour tous. Je donne maintenant la parole à Madame Trollet et Monsieur Mouzet, responsables de l'encadrement doctoral au sein de l'IRGI. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque.
Bien, bonjour à tous. Alors, Madame Le Doyen nous a fait part de remerciements, et c'est vrai qu'on doit vous dire doublement merci parce que vous avez tout fait tout seul. Alors, on vous a aidé, on vous a soutenu, mais il faut dire que cette idée, ce projet a été entièrement monté par des doctorants et des jeunes docteurs, ce qui, à mon sens, est suffisamment rare pour être souligné. Ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'investissement, et pour cela, nous vous en remercions une nouvelle fois. L'appel à contribution a suscité pas mal d'intérêt, et c'est vrai que nous avons eu des propositions d'intervention qui sont très très diverses. Et d'ailleurs, le programme reflète cette diversité, signe que le sujet finalement intéressait beaucoup. Et ça n'a pas toujours été facile de donner son sentiment quand il a fallu échanger. Toutes les contributions à la vérité méritaient d'être entendues. Et ça montrait aussi finalement la richesse de l'interdisciplinarité. C'est pas un colloque de droit privé, c'est pas un colloque de droit public. Il y a de tout, et c'est finalement ce qui est le plus intéressant en droit, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, mêler beaucoup de matières sur un même thème. Donc sur ce, je vous invite tout de suite à en écouter un petit peu plus sur ce qui va être abordé quant au fond. Monsieur Mouzet.
C'est comme la cafetière, hein, faut l'attendre un petit peu, mais. Voilà. Mais je ne doute pas que nous aurons.
Rapidement, une technique merveilleuse. Je suis moi aussi ravi d'être là, ravi d'être parmi vous et de voir que cette tradition, maintenant, des colloques organisés par les doctorants se poursuit. Je me souviens de certaines expériences passées qui étaient tout à fait extraordinaires et vraiment passionnantes. Quand j'ai vu l'intitulé du colloque, le thème, j'ai immédiatement pensé à un vieux film, en tout cas vieux pour vous, un film merveilleux de Denis Arcand qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. Le déclin de l'Empire américain, c'est un film de 86, si vous dire si c'est vieux, 1986 tout de même, Émilie. Un film qui commence par une scène avec un professeur d'histoire, on est au Québec, un professeur d'histoire qui fait un cours devant des étudiants, des étudiantes surtout, puisque c'est un peu le propos du film, mais c'est pas le mien, et qui dit à ses étudiants, en histoire il y a trois lois, le nombre, et de poursuivre en disant, c'est pour ça que les Noirs en Afrique du Sud finiront par gagner, c'est encore le temps de l'apartheid, alors qu'en revanche aux États-Unis d'Amérique, ils ne gagneront jamais. Mais, plaisanterie à part, je me demande si, et pour être franc avec vous, je n'y avais jamais réfléchi, parce que je n'avais jamais réfléchi à ce thème, parce qu'on ne peut pas réfléchir à tout, je me demande si la remarque ne vaut pas pour le droit. Après tout, au fond, on pourrait très bien dire, en droit, il y a trois lois, le nombre. Et à regarder votre programme, c'est tout à fait fascinant, tout à fait impressionnant, la manière dont le nombre imprègne le droit. On pourrait d'ailleurs poursuivre la comparaison entre le droit et l'histoire, la thématique du progrès. Est-ce qu'il y a un progrès de l'histoire? Est-ce qu'il y a un progrès du droit? Et je crois que le sentiment général, je ne veux pas anticiper sur les conclusions de cette journée d'études, de ce colloque, mais je ne suis pas convaincu qu'on aboutisse à l'idée que le nombre, la prégnance du nombre sur le droit, est synonyme de progrès. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il y a très certainement une problématique générale qui est celle de la performance. Évidemment, notre amie Marie-Laure Gély n'est pas encore arrivée, mais évidemment, quand on pense publiciste au nombre et au droit, on pense l'OLF, on pense loi organique relative aux lois de finances, on pense rendement, performance, indicateur. On en parlera sans doute. Je me demande si cela n'introduit pas une problématique à laquelle aussi nous réfléchirons, vous réfléchirez, qui est tout simplement celle du rapport ami-ennemi entre le droit et le nombre. Si vous parlez droit à des gens normaux, à des profanes, à des non-juristes, il y a deux idées qui leur viennent immédiatement à l'esprit, c'est la police et la justice. Introduire le nombre en matière de police et de justice, est-ce que ça n'est pas tout simplement nier ce qui fait le droit et aller à l'encontre de ce qui fait nos deux grands services publics? La question du rendement en la matière, elle est évidemment tout à fait fondamentale. Alors on pourrait me dire, oui mais non, ça c'est pas le nombre, c'est le chiffre. Ah oui, le chiffre, faire du chiffre. Bon. Voilà une question que nous devrons travailler et qu'on croisera. Autre question qui est évidemment permanente, c'est la question de la logique juridique. Voilà une réflexion que vous devez, que vous devrez toujours conduire, ce sont les rapports entre la logique mathématique et la logique juridique. Il n'est pas évident qu'il y ait une telle différence entre les deux, qu'il y ait nécessairement deux mondes radicalement distincts. La logique mathématique, certes, n'entre pas toujours dans nos considérations. Nous observons une science humaine et sociale, mais ça mériterait réflexion. De la même manière que, et d'autres en ont parlé, de la même manière que les rapports entre sciences économiques et sciences juridiques sont tout à fait passionnants. J'ai le sentiment qu'on est en retard, nous juristes. J'ai le sentiment qu'on se laisse bercer depuis quelques années, sinon quelques décennies, par les outils de la science économique, alors même que nos collègues économistes, eux, sont déjà passés à autre chose. Je pense à l'homo economicus, vous savez, cet être rationnel, mu par... Qui tente à imprégner certaines de nos réflexions de juristes où l'on verrait apparaître un homo juridicus. Bof, je ne suis pas sûr que le sujet de droit soit toujours gouverné exclusivement par une rationalité objective et déterminable. Mais bon, c'est encore une autre question que celle au fond de l'illusion scientiste. Il me semble surtout, parce que je ne veux pas, même si ma très chère amie Julie m'a provoqué, parler pendant une demi-heure, il me semble surtout que nos réflexions vont se construire sur deux idées qui conviennent distinguer et qu'on pourra peut-être rapprocher. Je pense très sincèrement qu'il y a évidemment le droit qui régit le nombre, et ça nous le voyons toutes et tous toujours, tous les jours. Il y a le droit qui régit le nombre, et il y a aussi, et je sens bien que c'est votre problème, votre souci, et que ça devrait être le nôtre, il y a, vous l'aurez compris, le nombre qui régit le droit. Ça, si j'osais un plan en deux parties, si j'osais reconstruire le programme autour de deux idées, je crois que ce seraient les idées les plus nettes, les plus claires, les plus structurantes. S'agissant du droit qui régit le nombre, je ne serai pas très très long, je vous rassure. S'agissant du droit qui régit le nombre, il y a à la fois énormément de sujets d'actualité, d'une part, et énormément de sujets de rapprochement, qui sont tous autant des évidences. Sujets d'actualité, je repensais l'autre jour, pardonnez-moi, mais je suppose qu'il y a parmi vous, parmi nous, des réfugiés des études de médecine. Toujours dans une assemblée de juristes, des réfugiés de médecine. Pensez au numerus clausus. Voilà une réforme qu'on attend et un droit qui devrait régir le nombre, le numerus clausus. Je parlais de réfugiés, la comparaison est osée et indécente, même à cette heure ô combien précoce. La question des migrants. On parle de migrants. En vérité, ce sont des réfugiés. C'est une question de nombre. C'est une question de nombre et le droit, en réalité, s'est très largement laissé absorber ici par le nombre. Autre sujet d'actualité, très vite, c'est le nombre de parlementaires. Alors, il y a les parlementaires européens, vous savez que on ne sait pas encore trop vraiment quoi faire des sièges britanniques. Est-ce qu'on les leur garde? Est-ce qu'on se les partage? Est-ce que... Encore qu'elle est à peu près réglée. Mais il y a le nombre de parlementaires français. Vous vous souvenez peut-être qu'au printemps, l'exécutif a eu cette idée géniale, je ne sais pas qui l'a eue, d'arrêter le nombre de députés à 404. 404, franchement. 404, dans un monde gouverné par l'informatique, c'est forcément une erreur. Je ne sais pas qui a eu cette idée absolument géniale. Mais voilà, on pourrait les passer tous en revue. Sujet d'actualité, le droit qui régit le nombre. Sujet de rapprochement, évidemment. Sujet de rapprochement, je vous parlais de la LOLF tout à l'heure, de la loi organique relative aux lois de finances, mais en vérité, votre thème, c'est tout le droit de l'impôt, c'est tout le droit fiscal, c'est tout le droit commercial que le droit qui régit le nombre. C'est même pratiquement tout le droit pénal, j'exagérerais, mais toute la procédure pénale dans une large mesure, et on en parlera abondamment pendant cette journée. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples encore, je ne vais pas être plus long, des sujets de rapprochement. Il suffit d'ouvrir le programme et vous verrez à quel point toutes nos disciplines en vérité sont très largement concernées par cette problématique. J'oublie pas, bien sûr, le droit électoral. Il manque peut-être au programme cette jurisprudence tout à fait délicieuse du Conseil constitutionnel qui a 20 ans maintenant. La jurisprudence, pas le Conseil constitutionnel, hein. Je m'adresse là à ceux qui ne sont vraiment pas réveillés. Dans l'affaire Tibéri, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, c'était en 98, le Conseil constitutionnel avait été saisi d'un contentieux électoral et d'une fraude électorale. Fraude, oh, fraude, c'est un bien grand mot, elle consistait à faire voter des morts. Bon. Le Conseil constitutionnel a considéré que certes il y avait fraude établie par une enquête de gendarmerie et par des décisions de la justice pénale, mais que l'écart de voix était tel que de toute façon ça n'avait pas pu influencer le scrutin. De l'impact du nombre. J'ose espérer qu'une telle jurisprudence ne serait pas renouvelée aujourd'hui, mais bon. Je veux dire par là que voilà un concept supplémentaire, un concept tout à fait essentiel. Je vous parlais de chiffres tout à l'heure, je pense là au seuil. Et la question du seuil est très très intéressante parce que, me semble-t-il, elle est très exactement à l'articulation entre le droit qui régit le nombre et le nombre qui régit le droit. Juste sur ce second point, quelques petites remarques, là encore très très rapides. Le nombre qui régit le droit, c'est au fond la quasi-totalité de nos problématiques et des questions du jour. On en reparlera toute la journée. Mais je voulais juste attirer votre attention sur deux séries de remarques. La première me paraît absolument fondamentale à tous égards. Je veux dire, fondamental du point de vue philosophique, du point de vue de la philosophie politique. La première question, c'est la question de la ou des majorités. Le rapport entre droit et majorité est tout à fait passionnant, à tous égards. Et ce n'est pas seulement le constitutionnaliste, si tant est que je sois constitutionnaliste, qu'il y a une autre question qui vous parle. La question de la majorité est déterminante en droit. Je veux dire par là qu'il y a, un mot de Georges Burdeau. C'est encore plus vieux que Denis Sarkand et le déclin de l'Empire américain, Georges Burdeau, hein, que j'ai toujours trouvé remarquable, lumineux, qui disait, en parlant notamment de la démocratie, que la majorité n'était pas en droit simplement le plus grand nombre, parce que sinon, ça ne serait qu'une autre forme de dictature que la dictature du plus grand nombre. Non, la majorité, c'est, disait-il, un substitut de l'unanimité. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que, certes, on n'est pas tous d'accord sur la politique, par exemple, conduite par la majorité, sur la gouvernance, et on reparlera de gouvernance. Mais on est tous d'accord sur le fait, en tout cas en démocratie, que le plus grand nombre, à un moment donné, décide pour tout le monde. Parce que, en vérité, en l'occurrence, le nombre, c'est aussi l'alternance. Ça, on pourra y réfléchir, on pourra y revenir, on pourra en discuter. Je pense évidemment, et ça a été après le déclin de l'Empire américain, une autre de mes réflexions. Vous vous souvenez certainement de ce député en 1981 qui avait lancé au Palais Bourbon, phrase célèbre, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ça avait fait scandale, et notamment dans les facultés de droit. Mon Dieu, quelle horreur! C'est même mis au frontispice des défenseurs du contrôle de constitutionnalité, cette idée-là. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Mais c'est tout à fait vrai. C'est fondamentalement vrai. Je note en passant que ledit député est devenu indéboulonnable président du comité des finances locales et que le nombre, les chiffres, l'argent est resté son quotidien. L'autre question de fond, et j'en terminerai par là, sans atteindre le nombre ou le chiffre de 30 minutes, encore que peut-être le temps a-t-il passé beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. L'autre question, c'est celle du symbole. Je pense qu'il y a une dimension qu'on n'abordera pas forcément dans ce programme, mais qui est extrêmement forte, qui est la dimension symbolique, non pas tant du droit, mais du nombre. Pensez au numéro de code, par exemple. Vous savez qu'on peut faire sa thèse sur un nombre. Alors, parfois, un nombre que de méchantes personnes changent ensuite en renumérotant un code. Mais on peut travailler sur ces symboles. Il y a là quelque chose de très intéressant, parce que le symbole, c'est à la fois un élément qu'on voit en permanence, qui saute aux yeux et qui gouverne notre vie, et quelque chose qu'on ne voit plus. Et nous tous, il y a des choses qu'en droit, on ne voit plus. Je vous invite, toutes et tous, je pense à nos doctorants, mais d'abord aux étudiants de première, deuxième année, je pense à cette nécessité de toujours penser à ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus naturel, réfléchir à la manière dont sont reçues les choses. Et les symboles que sont souvent les nombres, les symboles que constitue le droit, on a tendance à ne plus les voir. Il y a une invisibilité aussi des nombres, une invisibilité du nombre, comme il y a, au fond, une invisibilité du droit. Ce qu'on dit beaucoup autour de nous, et ce que beaucoup de gens savent, c'est que le droit, il est là en permanence, mais sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Et au fond, l'intérêt premier de cette journée, c'est de nous permettre de ne pas oublier ces choses-là. Je termine, je crois qu'au fond, et vous l'aurez compris, ben, le nombre est comme le droit, il est en permanence autour de nous, il est tout aussi visible pour ceux qui regardent qu'invisible pour ceux qui subissent, au fond. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment à toutes et tous une excellente journée.